Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant croire, comme le dit l'Écriture sainte. Croire, comme le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude du numéro 25 et le thème sera la consécration du disciple de Jésus. La consécration du chrétien est incluse dans l'œuvre de la rédemption. Dans le plan de Dieu, lorsqu'une personne se convertit à Jésus-Christ, elle change de maître, elle change de propriétaire, elle passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Actes chapitre 26, versets 17 et 18. L'œuvre du salut ne s'arrête donc pas au pardon de ses péchés, mais est suivie d'une consécration entière de sa nouvelle vie à un nouveau maître, c'est Jésus-Christ. Cette vérité se trouve dans la définition même du mot « rédemption » que nous allons étudier maintenant. Une personne se disant sauvée, mais ne désirant pas de consacrer sa vie au Seigneur, commence très mal sa vie chrétienne. Elle révèle une compréhension très limitée du grand salut qu'elle possède en Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare « En Christ, nous avons la rédemption par son précieux sang, nous avons la rémission des péchés », c'est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Notez s'il vous plaît les citations bibliques. Et encore, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Le mot « rédemption » en grec « apolutrosis » signifie « rachat, libération, délivrance par le paiement d'une rançon » d'un esclave en état de captivité ou en prison pour une dette qu'il est dans l'incapacité totale de régler. Nous étions tous esclaves du péché, moi le premier, de la mort, de la loi de Satan. Christ nous a rachetés et libérés à tous les niveaux. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, oui, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. La libération du chrétien s'est opérée grâce au sacrifice de Christ, qui seul en a payé le prix en versant son précieux sang. Et quelle est la conséquence d'une telle délivrance ? Vous ne vous appartenez point à vous-même maintenant, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Si Jésus nous a libérés, c'est dans un but précis que nous lui appartenions. Une fois sauvés, Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour afin que notre vie en témoignage de reconnaissance lui soit désormais consacrée. Il s'agit maintenant, sous la direction de notre nouveau maître, d'accomplir son plan parfait dans la nouvelle vie qu'il nous a préparée. Premièrement, le but de notre rédemption, c'est une vie entièrement consacrée à Dieu. Pour bien saisir cette vérité, nous allons illustrer notre propos, disons, par une petite histoire qui se répétait souvent du temps de Jésus et qui nous aidera à mieux comprendre le but de notre rédemption en Jésus-Christ. Dans ce temps-là, once upon a time, le mot rédemption était couramment employé lors de la vente d'esclaves. Un jeune garçon de couleur était à vendre sur un marché d'esclaves. Un silence s'était fait dans la foule. Tous les yeux étaient tournés vers un étranger qui persistait à surenchérir, bien que la dernière mise excéda déjà le prix normal. Qu'avait-il de si attrayant, ce garçon qui était dépenaillé, malheureux, attendant anxieusement son triste sort? Presque tout à la distance s'interrogeait. Où voulait-il en venir cet étranger avec cette démonstration d'humanité exagérée? Qui était vraiment cet inconnu? C'est ce que tout le monde se demandait. Pourquoi offrait-il un prix si exorbitant pour cet enfant? Finalement, le commissaire priseur cria pour terminer tout, c'est adjugé, un point c'est tout. L'acheteur mit dans la main du jeune esclave un papier qu'il venait d'écrire en hâte. « Tiens, dit-il, cela veut dire que tu es maintenant libre. » « Libre ? » Était-il vraiment libre ? Mais que pouvait signifier la liberté pour un enfant esclave ? Devant ses grands yeux interrogateurs et inquiets, l'acheteur ajouta, « J'ai vu que ta vie allait être brisée. Alors je t'ai acheté pour que tu sois maintenant libre. Tu n'as plus besoin de venir avec moi. Tu n'en as pas besoin. Tu es libre. » Le garçon prit soudain conscience de ce qui lui arrivait. Il était tout à coup libre. Cependant, un combat se livrait dans son cœur. Cela se voyait à son regard plein de questions. Un maître inconnu avait payé, vraiment, on peut bien le dire, le prix fort pour lui donner la liberté. Or, un tel homme devait certainement l'aimer. Il pourrait, en toute sécurité, se fier à un tel homme. Et tout à coup, on a pu voir l'adolescent se jeter aux pieds de son bienfaiteur et lui dire « Maître, tu m'as racheté à un très grand prix. Je sais que je n'en trouverai jamais un autre comme toi, jamais. » Et il lui rendit son papier. « Oh, ne me renvoie pas, mon maître. Je t'aime. Je préfère être ton esclave et à ton service, et cela jusqu'à ma mort. » L'heureux garçon, vaincu par la bonté et par la compassion de cet homme, resta à ses pieds jusqu'à ce que la main tendre et vigoureuse de son bienfaiteur l'obligea à se lever. Cette touchante histoire, elle illustre parfaitement le comportement que tout chrétien devrait adopter devant le si grand amour qui est manifesté à la croix. Un amour qui nous a libérés du péché, de mes péchés, de la juste condamnation divine, du pouvoir et des chaînes de Satan et d'une éternité en enfer. Mais le chrétien n'est pas seulement délivré de quelque chose, mais surtout pour quelque chose. Je répète, surtout pour quelque chose. Beaucoup oublient cette vérité capitale. La liberté n'est pas une fin en soi. Nous avons été rachetés, non pas pour vivre à nouveau, pour nous-mêmes, pour moi-même, mais pour appartenir à Jésus et de lui être désormais entièrement dévoué afin de servir à nouveau ce nouveau et merveilleux maître. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Le but divin de la rédemption en Christ consiste à nous racheter de nos péchés, mais aussi à faire de nous un peuple qui lui soit totalement consacré. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, pour toi, pour moi, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14. Dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, après avoir parlé du salut en Jésus-Christ, supplie ensuite les chrétiens de se consacrer à leur Sauveur. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains, chapitre 12, verset 1. Le premier problème à régler pour un nouveau chrétien est celui de sa consécration. Cela dépendra bien sûr de la manière dont il sera converti. Si l'Évangile n'a pas été présenté convenablement, celui qui donne sa vie à Jésus pourrait croire qu'il accorde peut-être une grande faveur à Dieu en se convertissant. Quelqu'un comme moi, pensera-t-il au fond de son cœur, peut tout de même donner du poids au christianisme parce que je suis pas n'importe qui, moi. Dans de telles conditions, comment pouvez-vous parler de consécration à ce chrétien aussi imbu de lui-même? Quand quelqu'un se convertit vraiment au Sauveur, il réalise bien au contraire qu'il bénéficie d'une grâce merveilleuse et exceptionnelle. Cet état d'esprit l'incite à consacrer volontairement et joyeusement toute sa vie à Dieu. Deuxièmement, quelles sont les deux motivations qui poussent un disciple à la consécration? Tout d'abord, l'amour extraordinaire de Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Et selon l'apôtre Paul, c'est l'une des raisons majeures pour se consacrer toute à lui. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc, absolument tous, sont morts et qu'il est mort pour tous. Cela afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui uniquement qui est mort et qui est ressuscité pour eux à la croix. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Le verbe « presser » en grec signifie « être sous le contrôle », être pressé de tous côtés, être entouré et dominé, être saisi et touché au plus profond de son être par l'amour insondable de Christ qui est manifesté à la croix. Alléluia. Cet amour forçait l'admiration et le respect de l'apôtre Paul. Il le motivait, le dominait et le dirigeait dans toutes ses activités pour son Sauveur et libérateur. La mort de Christ a amené inévitablement l'apôtre Paul, et il devrait en être ainsi pour tous les chrétiens, c'est-à-dire à vivre désormais non plus pour lui-même, pour moi-même, mais pour Christ. L'amour pour le Seigneur doit, par conséquent, être la première motivation de la consécration de tout chrétien. Nul ne peut se consacrer tout entier à son Sauveur sans avoir au préalable été profondément touché par cet amour sublime et ineffable manifesté par Jésus-Christ à son égard. Il est inutile de parler de consécration si cet amour n'est pas vraiment ressenti. Une fois qu'il a touché notre cœur, alors celle-ci en découle tout naturellement. Ensuite, le droit divin sur notre vie, c'est le second aspect de la consécration. Cette vérité est énoncée dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, oui, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne saisissent pas toujours cette notion de rachat à un très grand prix. Pour les Corinthiens, du temps de l'Empire romain, cela ne présentait aucune ambiguïté. Pourquoi ? Mais parce que en ce temps-là, il existait des marchés où l'on vendait des êtres humains. Une personne pouvait tout aussi bien, par exemple, aller au marché, se procurer une poule, peut-être même un canard, ainsi aussi, s'il le voulait, un être humain. Celui qui possédait beaucoup d'argent pouvait s'acheter un esclave, qui devenait alors entièrement sa propriété. L'apôtre Paul utilise cette métaphore pour dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous et comment il a donné sa propre vie en rançon pour nous racheter et pour nous réconcilier avec Dieu. Incapable de nous sauver nous-mêmes, son précieux sang a été le prix exorbitant qu'il a dû payer pour nous délivrer. 1er épître de Pétre, chapitre 1, versets 18 et 19. Et désormais, et oui, à cause de son sacrifice expiatoire, nous ne nous appartenons plus du tout à nous-mêmes. Non. Et voilà pourquoi nous renonçons volontiers à nos droits et que nous abandonnons tout esprit d'indépendance. Puisque nous avons été rachetés, nous sommes la propriété du Seigneur et par conséquent, il a tous les droits sur notre vie, sur ma vie. Le chrétien racheté par Christ est maintenant libéré de la domination de Satan et du péché. Notez s'il vous plaît les citations bibliques suivantes. Actes chapitre 26 verset 28, Romains chapitre 6 verset 7, versets 12 et 14 et 18, et ajoutez Colossiens chapitre 1 verset 13. Mais cette libération ne lui permet pas de faire ce qu'il veut, car il est devenu maintenant la propriété de Dieu. Il est libéré pour devenir l'esclave volontaire de Dieu et pour le servir. Notez Actes 26, verset 18, Romains 6, verset 18 et 22, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et 20, ainsi que le chapitre 7, verset 22 et 23. La vraie liberté, c'est donc être esclave de Jésus-Christ. Les deux piliers de la consécration sont notre amour en réponse à son grand amour et le droit légal divin que Dieu a sur nous, sur toi comme sur moi, par la croix. Ainsi, d'une part, par amour, nous choisissons de servir volontairement notre Seigneur, et d'autre part, puisque légalement nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, notre devoir est donc de le suivre. Je répète, parce que c'est quand même important. Ainsi, d'une part, par amour, nous choisissons de servir volontairement notre Seigneur, et d'autre part, puisque légalement nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, notre devoir est donc de le suivre. En somme, ce rachat suscite en nous un tel amour que nous décidons spontanément de vivre pour lui. Mais nous reconnaissons aussi que, à cause de la croix, Dieu a tous les droits sur notre vie parce qu'il nous a rachetés. Troisièmement, être consacré, c'est s'engager personnellement à servir le Seigneur. Et comment ? Voyez-vous, il nous importe de savoir que être pressé par l'amour et avoir compris les droits divins sur notre vie, sur ma vie, ne représente pas encore l'entière consécration. Il faut aller encore un peu plus loin. Le pas supplémentaire qui est indispensable à franchir après avoir bien compris ces deux réalités, c'est de nous séparer ou de nous mettre à part pour être totalement à Dieu. Et cela en vue de le servir, parce que dans l'Ancien Testament, c'est là le triple sens du mot consécration en hébreu kadesh. En Israël, sous l'ancienne alliance, les personnes ou les objets qui étaient mis à part pour le service étaient déclarés saints ou consacrés à Dieu. Exode chapitre 13, versets 1 et 2. Ainsi que chapitre 29, j'ai dit de Exode. Chapitre 29, verset 1, verset 27 et le verset 36. Par exemple, l'Éternel a dit à ce grand Moïse, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Exode, chapitre 28, verset 1. Nous devons maintenant être consacrés à Dieu et servir notre Maître Jésus-Christ. Le mot consécration est aussi très répandu dans le Nouveau Testament et il possède le même sens. Il est vrai que le mot sanctifier est davantage mis en avant, mais c'est en fait un synonyme ayant en grec exactement la même racine. Jésus a dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Saint Jean chapitre 17, verset 19, « Quand il est dit que Jésus se sanctifie, cela veut dire qu'il se sépare pour se consacrer à faire la volonté de son Père en acceptant de mourir sur la croix. » Je répète, quand il est dit que Jésus se sanctifie, cela veut dire qu'il se sépare pour se consacrer à faire uniquement la volonté de son Père en acceptant de mourir même sur la croix. Écoutez un peu ceci. Jésus a souffert à Golgotha afin que ses disciples soient sanctifiés. Autrement dit, pour qu'ils soient séparés, séparé du monde. Oui, consacré à Dieu, avec un objectif précis, le servir. Je répète, Jésus a souffert à Golgotha, afin que ses disciples, vous et moi, soient sanctifiés. Autrement dit, pour que nous soyons séparés du monde, pour que nous soyons consacrés à Dieu, Yahvé l'Éternel, avec un objectif précis pour le servir. Parlant de ses disciples, Jésus a aussi prononcé cette parole bien connue, « Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole, et car ta parole est la vérité. » Saint Jean chapitre 17, verset 17. Le verbe sanctifier, cela signifie rendre saint. Cela signifie se séparer et de se consacrer. Je répète, le verbe sanctifier, cela signifie rendre saint. Il nous rend saint. Il nous demande de nous séparer du monde. Il nous demande de nous consacrer. Le soir avant sa crucifixion, oh oui, Jésus a prié pour que ses disciples soient un peuple saint, séparé de l'esprit du monde et du péché, pour se consacrer uniquement à Dieu, pour le servir. S'ils voulaient vivre près de leur maître, il fallait qu'ils se détachent du monde pour se consacrer à lui et chercher désormais à lui ressembler. Cette consécration s'est réalisée parce qu'ils ont obéi à la sainte parole de Dieu. Telle est donc la définition de la consécration biblique, vouloir ardemment servir le Maître, mais seulement après s'être consacré complètement à lui. Supposez que vous avez acheté un esclave et que vous l'ameniez chez vous, à la porte de votre maison, si celui-ci se mettait à genoux pour vous dire « Maître, vous m'avez racheté. Maintenant, c'est avec joie que j'attends vos ordres pour vous servir. Pour vous l'avoir acheté, cet esclave, serait donc une chose, mais pour lui, pour l'esclave, de s'agenouiller devant vous et vous exprimer son désir de vous servir serait une toute autre chose. Parce que vous l'avez racheté, il reconnaîtrait vos droits sur lui. Et parce que vous l'avez aimé dans son état désespéré et pitoyable, il s'empresserait aussi de vous déclarer qu'il se donne tout à vous pour vous obéir. Cette image, elle illustre parfaitement bien ce que est un véritable, ou si vous voulez, une vraie consécration à Dieu. Être consacré, c'est beaucoup plus que être simplement aimé ou racheté. C'est l'engagement personnel pour le servir qui résulte de ces deux magnifiques réalités. Par conséquent, celui qui se consacre à Dieu se sépare de toute influence du monde. Oui, de tous ses anciens maîtres, pour n'obéir que aux ordres de Jésus, son nouveau et merveilleux maître. Puissions-nous aussi réaliser que ce n'est pas un fardeau, mais que c'est un immense privilège et un grand honneur que de le servir. Et comment ? Ne devrions-nous pas, chers amis, nous prosterner devant lui et dire maintenant « Merci Seigneur pour cette grâce infinie que tu m'accordes d'être à ton service ». Je ne t'appartiens entièrement. Je ne veux vivre que pour toi. Désormais, mes oreilles, mes mains, mes yeux, mes pieds, tout mon corps ayant été racheté par ton sang, seront exclusivement ta unique propriété pour te servir, quel sera alors le fruit d'une telle consécration? Ce sera inévitablement une marche dans la sainteté. En effet, dans Exode, chapitre 28, au début de votre Bible, lorsqu'il s'agit de la consécration des sacrificateurs, nous découvrons ces deux aspects essentiels et inséparables dans le service de Dieu. D'une part, une consécration totale au Seigneur, et d'autre part, une marche dans la sainteté. Je répète, nous découvrons ces deux aspects essentiels et inséparables dans le service de Dieu. D'une part, une consécration totale au Seigneur. D'autre part, une marche dans la sainteté. Et quatrièmement, seulement le meilleur de nous-mêmes est digne du Seigneur. Combien cela est vrai. La vraie consécration, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, de toi-même, de moi-même, au Seigneur qui est maintenant ton maître, qui est maintenant ton Seigneur. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices offerts à Dieu devaient être sans aucun défaut. Exode 12, verset 5 et chapitre 29, verset 1. Les Israélites devaient donc donner le meilleur de ce qu'ils possédaient et non simplement les miettes ou les restes. Seul le meilleur était digne du Seigneur. Les deux illustrations suivantes vont nous aider à mieux réaliser l'importance de donner le meilleur de nous-mêmes afin d'offrir à Dieu une vie consacrée qui honore, qui va l'honorer comme il se doit. Un artiste de très grande renommée se promenait un jour dans son vaste atelier de poterie avec un marteau à la main. Quand il découvrait le moindre défaut dans l'une de ses porcelaines, eh bien, il la brisait en déclarant « Seul le meilleur est digne du nom de Josiah Wedgroud. » Quel magnifique exemple! Ne devrions-nous pas, vous et moi, en tant que disciples de Jésus-Christ, dire de tout ce que nous faisons pour lui? Seul, oui, seul le meilleur de moi-même est vraiment digne de toi, mon merveilleux Sauveur et Seigneur. Cette seconde illustration contient aussi un message important pour chaque chrétien qui veut plaire à son maître. Un certain jour, la reine Victoria d'Angleterre se promenait incognito dans une ville. Surprise par un orage et n'ayant pas de parapluie, elle alla frapper à la porte d'une maison pour en demander un. Sans révéler, bien entendu, son identité, elle en sollicita un parapluie auprès de la dame qui lui ouvrit et qui lui promettant de, la reine lui promettait à cette dame de la ramener sans faute, même le lendemain. Voyez-vous, la reine promettait qu'elle restituerait ce parapluie déjà le lendemain. Et toute pensive, l'interlocutrice se dit en elle-même, « Voyons, que dois-je faire ? Car je ne connais pas cette personne. Mais je ne vais tout de même pas lui prêter mon tout beau parapluie que je risque de ne plus jamais revoir. Le plus vieux de la maison fera très bien l'affaire. » Et bientôt, elle réapparut sur le seuil de sa porte avec un parapluie toute abîmée et le remit à l'étrangère qui attendait dehors. Cette dernière la remercia et s'en alla en l'assurant qu'on le lui ramènerait le lendemain. Le jour suivant, une belle et grande voiture officielle de Sa Majesté, la Reine, s'arrêta devant sa maison. Un monsieur, très distingué, en sortit avec le parapluie que cette dame avait prêté la veille et frappa à la porte. Intriguée, elle ouvrit aussitôt. « Voici, dit-il, le parapluie que vous avez prêté hier à la reine. Elle vous le rend selon sa promesse avec ses remerciements. » La dame, très embarrassée et honteuse, on la comprend, s'empressa de ranger son vieux parapluie et comprit bien vite qu'elle venait de commettre une grande erreur. Elle regretta bien sûr amèrement son geste, mais c'était trop tard. Combien elle aurait aimé donner à sa reine son plus beau parapluie. Oh, quelle leçon inoubliable et humiliante pour notre pauvre dame. Et nous, en tant que chrétiens, qu'avons-nous offert à Jésus, notre Rédempteur, le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs? Le meilleur de nous-mêmes, ou est-ce que nous lui offrons seulement les restes d'une vie égoïste, partagée et gaspillée? Chers amis, s'il vous plaît, je vous supplie de ne pas faire comme moi, comme moi qui a maintenant 89 ans. Oui, nous sommes le 31 décembre. Bientôt, ce sera la nouvelle année. Eh bien, vous savez, moi qui vous parle maintenant, à un grand âge, je vous recommande et je vous supplie même de ne pas faire comme moi. Car pendant des années, j'ai donné que les restes d'une vie égoïste, partagée et gaspillée à mon maître. Surtout, ne faites pas comme moi. Si vous avez la moitié de mon âge, s'il vous plaît, aujourd'hui même, consacrez-vous, je vous en supplie. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu, combien nous regretterons de ne pas lui avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Mais ce sera trop tard, trop tard. C'est maintenant qu'il faut se donner à celui qui s'est livré jusqu'à se sacrifier pour nous. Oui, il s'est sacrifié pour nous. Il a donné le meilleur de lui-même pour nous sauver, pour nous arracher aux griffes du diable, pour nous arracher à l'enfer. Répondons sans tarder au désir de son cœur en l'aimant et en le servant comme lui seul en est digne. On n'a pas besoin d'être une personnalité importante pour faire de grandes choses pour Dieu. Il suffit simplement d'être une personne consacrée. Les grands services révèlent nos capacités. Or, les petits services révèlent notre consécration. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière, cette très courte étude, mais où chacun qui écoute pourra prendre une décision, non pas pour une société religieuse, mais pour Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Prions. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur est mon Dieu. Tu es la seule personne à qui je consente le don de tout moi-même et pour toujours, sans réserve, sans condition et sans limite aucune. Entre les mains d'un autre que toi, ce serait de l'esclavage. Entre tes mains à toi, se perdre, c'est se trouver. Je ne serai jamais autant moi-même qu'en étant à toi tout entier. Tu m'as saisi et je jubile de t'appartenir. Que jamais je ne reprenne ce que je t'ai donné, sinon tu cesserais d'être pour moi l'unique. Je sais d'ailleurs que la réciproque est vraie. Tu es à moi comme je suis à toi. Tu ne peux me demander moins que moi, mais tu ne peux me donner moins que toi. Jésus-Christ, tu es le seul absolu de ma vie, parce que tu n'es que amour et rien d'autre. Chez toi, ce n'est pas un accessoire, un agrément, mais c'est ton être même. Tu ne risques jamais de me faire défaut, car tu ne peux pas me trahir ni me manquer. Toi, qui es mort pour moi par amour, tu ne mourras jamais plus, car le Père t'a ressuscité, alléluia. Tu es la seule tendresse vraiment fiable. Je mise tout sur toi, sans calcul ni précaution, sûr de ta fidélité. Jésus-Christ, tu es le bien-aimé à qui je suis uni le plus étroitement maintenant. Tu me pénètres du dedans comme un baume. Tu habites ma liberté sans la détruire. Je te trouve en ma demeure, où que j'aille, et quoi que je fasse, ou que je subisse. Jésus-Christ, tu es l'ami qui me connaît le mieux. Tu sondes mon cœur. Tu sais ce qu'il y a en moi d'unique au monde et d'irremplaçable. Tu connais ma vocation véritable beaucoup mieux que moi. Tu la veux plus belle encore que mes rêves. Tu me prends au sérieux et quand je pêche, ton pardon n'est jamais complice mais exigeant. Tu es le seul à avoir pour moi une ambition folle, la sainteté. Un jour, je te connaîtrai comme je suis, comme de toi, connu de toi, et cela me réjouit d'avance. Gloire, louange et honneur à toi, Dieu le Père, à toi Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.